Bonsoir à chacun. Nous allons faire une lecture, une longue lecture, pour une fois, dans Daniel chapitre 5. On va lire tout le chapitre 5. Peut-être sauter quelques versets à un moment donné, je vous le dirai. Mais je pense que c'est important qu'on lise une grande partie pour bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Ça a été assez dit ce soir. Ce livre, c'est la parole de vie, la parole qui peut donner la vie. Il suffit que nous puissions ouvrir nos cœurs et lui donner toute l'attention qu'elle mérite pour qu'elle fasse son effet dans nos cœurs. Daniel chapitre 5 et le verset 1er. Il est dit « Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, animé par le vin, fit apporter les vases d'eau, d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les lieux d'or, d'argent, d'airain de fer, de bois et de pierre. À ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées se troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. » On va aller jusqu'au verset 16. « Alors Daniel fut introduit devant le roi, et le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » Verset 17, Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. » Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux à qui il voulait, il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres Et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume. Amen. Ça va, c'était pas trop long? De toute façon, c'est la parole de Dieu, alors vous arrangez avec lui. C'est la deuxième fois où Dieu, par le concours d'une circonstance particulière, écrit quelque chose. La première fois, quand était-ce? Est-ce que vous vous souvenez à quel moment Dieu a commencé à écrire quelque chose? Les 10 commandements, écrits du doigt de Dieu, comme c'est marqué. Les 10 commandements, quand Dieu a voulu donner à son peuple sa loi. La deuxième fois, c'est cette fois-ci, où Dieu a voulu écrire une condamnation et un avertissement envers un roi, et on va voir qu'il n'y a pas tenu compte, qu'il n'en a pas fait cas. La troisième fois, c'est quand Jésus a écrit sur la terre quelque chose. Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Et j'ai trouvé remarquable cette histoire où Dieu se permet d'écrire, et je crois que c'est quelque chose d'incroyable qui a pris place dans ces moments. Mais il y a eu 4 personnes qui ont pris part à ce grand festin. Vous avez lu comme moi, le roi Belshazzar a commencé à faire un grand festin. Et on imagine que c'était quelque chose de grand, puisqu'il y avait au moins 1000 personnes. Et quand on regarde bien, on se rend compte qu'il y avait 1000 dignitaires ou 1000 grands de son royaume. Mais il y avait sûrement des femmes et les concubines et toutes sortes de personnes qui étaient là en plus. Donc c'était un grand, grand, grand repas. Et le but de ce repas, on l'imagine très bien, c'est que c'était pour montrer à tous qu'il avait les moyens de faire ces choses, de faire ce repas, les moyens de nourrir tant et tant de personnes. C'est sûr que si nous on avait 1000 personnes à nourrir, ça serait un véritable casse-tête. Je ne sais pas comment vous réagirez, mais on se ferait des cheveux blancs rien que pour imaginer le menu de ces personnes. Mais lui, il a fait ce grand festin, il a fait tout cela et il a commencé à prendre sa part dans ce festin. On va voir 4 personnes ce soir, 4 personnes qui sont intervenues dans cette fête et qui ont apporté leur contribution, mais de manière différente. Le premier, effectivement, c'est le roi Belshazzar. Et sa contribution à ce festin, c'était quoi? Bon, non seulement il a préparé, il a organisé, mais il a fait quelque chose de particulier. Il est dit qu'il a bu du vin en leur présence. Est-ce que boire du vin, c'est mal? Boire du vin, la Bible, Paul il en parle lui-même, il dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin. Par contre, il dit ailleurs, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez remplis l'esprit. Donc on voit que la Bible ne condamne pas le fait de boire du vin, mais par contre, on se rend compte que ce roi, il a été plus loin que cela. Il a été dans l'ivrognerie, il a été dans la débauche, il a été même dans l'immoralité, l'idolâtrie. Et quel a été le départ de tout cela? Eh bien, il est marqué au verset 2, que ce roi, il a été animé par le vin. Animé, c'est-à-dire que le vin, il a dû en prendre tellement que c'était cette boisson qui contrôlait ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, lui, il se rendait même plus compte sûrement de ce qu'il faisait. Il était sous. Et ça nous parle à nous. Le vin représente ces choses de la terre, ces plaisirs terrestres éphémères qui sont là et qui sont pas mauvais en soi, mais s'ils prennent le dessus sur notre vie spirituelle, s'ils prennent le pas sur la volonté de Dieu, ça devient des choses mauvaises. Et il y a tellement d'exemples, et ça nous conduit à l'idolâtrie. L'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? Là, on a vu qu'ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain. Eux, ils avaient des statues, ils avaient toutes sortes de choses. Aujourd'hui, l'idolâtrie, elle est bien plus cachée que ça. L'idolâtrie, c'est ce à quoi on consacre le plus de temps dans notre vie. Quelles sont ces choses qui sont dans notre vie auxquelles on consacre beaucoup de temps? Eh bien, si on les consacre plus de temps que Dieu, ça devient des idoles, tout simplement. Voilà une définition de l'idolâtrie. Et il y avait des coutumes à cette époque, comme quoi le fait de boire du vin et de répandre des coupes devant les idoles, ça c'était comme une offrande qu'on leur faisait. Et sûrement que c'est ce qu'ils ont fait. Et on remarque quelque chose, c'est que animé par le vin, animé par cette vision terrestre des choses, animé par cet attachement au plaisir du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher les vases d'or qui servaient dans le temple de Dieu. Et ils savaient pertinemment, Belshazzar savait pertinemment que c'était les vases qu'ils avaient récupérés de Jérusalem. Parce qu'ils avaient des comptes. Quand ça se passait comme ça, mais quand l'ennemi envahissait un pays et qu'il pillait son trésor, le trésor, ils faisaient le compte du trésor et ils le mettaient dans leur trésor à eux. Mais ils notaient tout ce qu'ils avaient pris. Et ils savaient pertinemment. Et il a envoyé chercher les vases d'or pour s'en servir justement, pour sa débauche, pour s'en servir pour son idolâtrie, pour s'en servir de cette manière-là. Et il y a cette image qui est là, qui nous parle de façon incroyable, le fait que Dieu nous a créés comme des vases à chacun d'entre nous. Il nous a créés comme des vases qu'il désire utiliser pour sa gloire. Chacun, pour notre part, tous les hommes de cette terre ont été créés pour être utiles entre les mains de Dieu. Et quelque part, on pourrait dire que c'est des vases d'or. Mais le péché est venu et a souillé ces vases. Le péché est venu et a séparé du plan parfait que Dieu avait prévu pour chacun. Le péché est venu détruire totalement la communion avec le Seigneur. Et quand nous péchons, nous allons littéralement, nous allons tout droit à ce que la Bible nous dit, le salaire du péché c'est la mort, nous allons à la corruption, nous allons à la mort. Galates chapitre 6 verset 7, je le lis pour vous, nous dit ceci, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Belshazzar a apporté sa contribution à ce festin. Il a apporté la corruption, il a apporté l'idolâtrie, il a apporté la débauche, il a apporté toutes sortes de choses mauvaises. Il a apporté sa façon de voir les choses de manière terrestre qui fait qu'il a été averti par le Seigneur et à la fin, on l'a lu ensemble, il a été tué parce qu'il n'a pas tenu compte des avertissements. Il a moissonné pour la chair et celui qui moissonne pour la chair, comme on l'a lu, il récolte la corruption. Celui par contre qui sème pour l'esprit, celui qui laisse l'esprit agir en lui, celui qui laisse le Seigneur lui parler à son cœur, celui-là, il moissonnera la vie éternelle. Ça c'est la promesse de Dieu. Et la Bible nous parle d'un bien plus grand festin, avec bien plus de personnes, avec de meilleures nourritures, avec une portée bien plus importante parce qu'elle est spirituelle. Il s'agit du festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ce repas que le Seigneur a préparé pour tous ceux qui croiraient en lui. Le Seigneur a préparé cela et dès à présent nous pouvons nous poser cette question, à quel festin voulons-nous participer? Est-ce que nous voulons seulement vivre des moments de communion sur la terre, à bien manger, bien boire, même sans trop faire d'excès? Ou est-ce que nous voulons vivre à tout prix ce festin là-haut? Celui-là, il a une importance. Celui-là, il est capital. Celui-là, il va changer notre éternité. Et de toute manière, si nous acceptons la parole de Dieu, eh bien, nous irons. Nous aurons le ticket d'entrée pour participer à ce repas. En tout cas, quand ce roi, il a participé à cette fête, ça a été la débandade, ça a été la déchéance, ça a été la corruption. Mais il y a une deuxième personne qui est intervenue, qui n'a pas pu laisser les choses se passer sans intervention, parce qu'il avait trop d'amour, trop de bonté, trop de désir que les choses changent. Cette personne, c'était qui? C'était Dieu. Dieu est intervenu dans la fête. Dieu est intervenu dans l'histoire. Et il est dit qu'il y a eu cette main qui a commencé à écrire. Et vous savez que le roi, il était sûrement sur un endroit élevé pour pouvoir être vu de tous pendant qu'il mangeait, parce qu'il avait cette autorité, il avait cette gloire qui lui revenait. Et il était là, sûrement en train de regarder. Et il est dit que, alors qu'il y avait un chandelier à côté de lui, il y a une main qui a commencé à écrire, qui était bien à la lumière. Dieu était en train d'avertir cet homme, était en train de lui dire qu'il était dans la corruption, en train de lui dire qu'il était temps qu'il fasse quelque chose. Et quand Dieu intervient dans nos vies, il le fait parce qu'il nous aime. Il le fait à cause de son grand amour. Et combien, des fois, quand il intervient, ça peut faire mal. Cette image est là d'un papa qui a un enfant qui a tendance à courir beaucoup sur les trottoirs. Il est en train de courir, le papa il est là, il le regarde. Puis tout à coup, l'enfant il a envie de courir sur la route. Et le papa, il n'hésite pas une seconde, il n'attend pas poliment que l'enfant réponde à ses demandes. Ça serait bien que tu n'ailles pas sur la route. Le papa, il va pas attendre. En voyant la voiture arriver, il va courir, il va attraper par le col ou parce qu'il peut attraper les cheveux, je sais pas, quelque chose. Il va attraper son fils et il va le tirer du danger. Et Dieu, des fois, il est obligé d'agir de la même manière. Et des fois, comme le petit garçon, il va se retourner vers son papa, il va lui dire, mais papa, tu m'as fait mal. Oui, mais je t'ai sauvé. Dieu, il peut nous dire la même chose. D'ailleurs, il y a ce verset que je lis pour vous également, 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et la participation de Dieu à cette fête, ça a été qu'il a montré qu'il contrôlait les choses. Il était au contrôle, même si les hommes sont en train de pécher, même si les hommes sont en train de renier son nom, même si les hommes sont en train d'avoir toutes sortes d'idoles qui ne correspondent pas du tout à l'image que Dieu et à l'image du Dieu vivant, le Dieu réel, Dieu est au contrôle. Et comment réagissons-nous dans ces cas ? Est-ce que nous avons confiance ou est-ce que nous sommes, comme le roi Belshazzar, dans la confusion ? Vous avez vu comment il a réagi ? Quand il a vu la main qu'il était en train d'écrire, il n'a pas été serein du tout. Il a commencé à voir les genoux qui tremblaient, qui sont trop choqués, les reins qui se sont relâchés. Il a commencé à voir le visage qui a changé de couleur. C'était pas du tout quelque chose, un moment de sérénité, de paix. Il était dans la confusion. Et tout le peuple qui était là autour de lui était dans la confusion. Et je sais pas comment on réagirait si on commençait à voir une main toute seule qui serait en train d'écrire sur un des murs, là. Je crois qu'on serait les premiers à partir en courant vers la porte. Et on peut le comprendre. Mais quand on comprend que c'est la main de Dieu qui était en train d'avertir son peuple, comme aujourd'hui Dieu nous a laissé sa parole, et ce n'est pas une main qui est en train d'écrire, mais Dieu par son esprit a permis à des hommes d'écrire et de laisser ce message, et des hommes qui sont de provenance totalement différente. Il y avait des bergers, il y avait des rois, il y avait des artistes, il y avait toutes sortes de personnes qui ont commencé, des théologiens, à écrire cette parole. Et quand on la regarde, quand on l'étudie, on se rend compte qu'il y a une unité. Parce qu'il y a un seul auteur véritable, c'est Dieu et c'est son Saint-Esprit. Et Dieu nous a laissé ce message. Maintenant, comment réagissons-nous ? Est-ce que nous sommes dans la confusion, dans la tristesse ? Ah, c'est dur ce que la parole de Dieu dit. Ah, c'est difficile. Encore cette semaine, je parlais à quelqu'un et il me disait, ah moi, qu'est-ce que j'aime Dieu ? Moi, je veux faire la volonté de Dieu. Et puis, en discutant un peu avec cette personne, j'ai appris certaines choses et je lui ai dit mais ça, est-ce que vous savez que c'est pas dans que c'est contraire à ce que la Bible dit? Il dit oui, mais c'est pas grave, j'aime Dieu. Je lui ai dit mais si vous aimez Dieu, mais alors faites ce qu'il vous demande, faites ce qui a marqué. Souvent on aime Dieu, comme il est dit dans 1 Jean, on aime Dieu en parole, mais on n'aime pas Dieu en action et en vérité. Dieu demande qu'on l'aime avec vérité, tout simplement. Dieu nous demande qu'on lui fasse confiance parce que c'est lui qui est au contrôle des choses. Dieu, il influe le cœur des rois comme des courants d'eau dans ses mains. Il est dit dans les Proverbes et il savait pertinemment comment ça se passait. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte du contexte, mais quand le roi Darius qui est arrivé à la fin, il a sûrement dû été vu par des éclaireurs, sûrement dû été vu par des gens qui veillaient à la protection de la ville. Et le roi Belshazzar, il devait connaître ces informations. Pourtant, dans ces contextes de guerre, dans ces contextes de danger, de menace, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a organisé un grand festin. Quelque chose d'incroyable. Il a voulu montrer à tous qu'il contrôlait les choses, alors qu'il ne contrôlait pas du tout les choses. Et il n'a pas voulu reconnaître que c'était Dieu véritablement qui était au contrôle. Et comme quoi souvent, quand on est dans le péché, quand on est plongé dans ce désir de faire nos propres œuvres, de faire notre propre pensée, de suivre nos propres voies, eh bien on est aveuglé dans notre intelligence. On ne se rend pas compte de la situation véritable. Ce roi ne se rendait pas compte du danger qui le menaçait. Voilà pourquoi Dieu est intervenu, a commencé à écrire un message sur le mur avec une main, à faire un miracle dans sa vie pour qu'il soit interpellé dans son cœur. Et lui, il a réagi bizarrement. Vous remarquez avec moi, on a lu à un moment donné qu'il a loué les dieux d'or, d'argent, et de toutes sortes de choses, d'airain de fer, de bois et de pierre, etc. Mais quand il a vu cette main qui écrivait, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a commencé à prier ses dieux ? Ah, venez me secourir ! Non, il n'est pas parlé des dieux là. Tout de suite, il allait chercher un moyen humain pour réparer les choses. Un moyen, une solution humaine. Il allait chercher les astrologues, les devins, il allait chercher ceux qui avaient un peu de sagesse dans son royaume, il allait chercher une façon de résoudre les choses de manière très très concrète. Et on a vu ensemble que personne n'a pu donner l'explication de ce qui s'est passé. Et quand on a des idoles, quand on a des choses comme ça, de pierre, des choses terrestres, des choses de ce monde, Eh bien, quand on est dans la difficulté, dans la détresse, elles ne peuvent rien pour nous. D'ailleurs, Daniel lui a dit, ces idoles, elles n'entendent pas, elles ne voient pas, elles ne comprennent pas la situation. Dieu, par contre, lui, il contrôle toutes choses. Et dans ses mains, il y a ta vie, il y a toutes tes œuvres. Alors, que nous puissions être interpellés par cette parole qui nous les est laissée, que nous puissions non pas rester dans la confusion, non pas rester dans la tristesse si cette parole nous fait mal, mais que nous puissions être amenés au salut comme le Seigneur voudrait qu'on y soit. Et dans sa panique, il appelle tous les magiciens et c'est important de redire, encore une fois, je vais le relire avec vous, Deutéronome chapitre 18, verset 10, c'est important de dire dans l'époque dans laquelle on vit que les astrologues, les magiciens n'ont pas un bon conseil à nous donner. Nous ne devons pas aller voir ces personnes. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Et souvent, ces choses-là sont même déguisées. On les voit des publicités à la télévision. Faites tel numéro et vous saurez si vous allez avoir un enfant, un garçon, une fille, avec qui vous allez vous marier, etc. Et ça, c'est de l'astrologie ou de la voyance déguisée. Et combien toutes ces choses, on passe des publicités sans vergogne à la télévision et on passe ça sans réfléchir trop. Par contre, tout ce qui est de la part de Dieu, toutes ces choses, ah non, non, non. On est une république laïque, surtout pas de Dieu. Par contre, toute la voyance, l'astrologie, ça on en veut. Mais regardez ce que la Bible dit. Regardez comment c'est clair. Deutéronome 18, 10, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. La parole de Dieu, elle est claire. Et je ne sais pas si vous avez lu attentivement ce passage, mais il est dit, non seulement c'est quiconque est un astrologue ou un devin est en abomination, mais quiconque consulte ces personnes est en abomination. Et je crois que les gens qui sont vraiment sincères, qui sont dans la détresse, qui sont dans le désespoir et qui cherchent une solution à leurs problèmes, c'est important qu'ils savent ces choses, parce que quand on va voir de telles personnes, on n'est pas dans l'approbation de Dieu. On n'est pas dans le chemin de bénédiction que Dieu voudrait pour nous. Mais quand on va voir de telles personnes, au contraire, c'est un chemin de malédiction. Et combien nous devons y prendre garde. Et cet homme, il a heureusement eu une personne de bon conseil à ses côtés. Cette personne, c'était qui ? C'était la reine. Alors, il ne s'agit sûrement pas de la reine, c'est-à-dire d'une de ses femmes, mais il semble que ce soit une des reines, sûrement la reine mère ou la reine grand-mère, quelqu'un qui a connu le Nebuchadnezzar et qui a connu surtout Daniel, qui a su interpréter les songes au moment où Daniel est intervenu. Et cette personne, elle a dit, c'est bien tous les astrologues, toutes ces choses, mais il y a dans ton royaume une personne, quelqu'un qui a en lui l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quelqu'un qui sait interpréter ces choses parce qu'il est en communion avec le Dieu puissant. Combien c'est bon de savoir qu'on peut avoir autour de nous des personnes qui connaissent la parole, des personnes avec qui on peut parler de Dieu et qui ne vont pas nous dire ce qu'ils pensent, qui ne vont pas nous dire leurs opinions sur telle ou telle chose spirituelle, mais qui vont nous dire, regarde, il s'est marqué ça dans la Bible. Regarde ce qu'il est marqué dans l'Évangile. Regarde ce qu'il est marqué dans tel passage. Des personnes qui vont revenir à la parole. Parce que la parole, elle est capable de transformer un cœur, de libérer un cœur, de guérir un cœur. Mais ce n'est pas la parole des hommes qui va le faire. C'est notre parole. Ça me rappelle cette histoire. Souvent, on cherche des appuis autour de nous, des conseils. Des fois, certaines personnes pensent qu'aller voir un psychiatre, c'est bien. Et c'est vrai que dans certains cas, ça peut être utile. Mais je crois que Dieu est plus puissant que ça. Ça me fait penser à cette histoire, justement, où un homme est allé voir un psychiatre et il dit « Docteur, je vous en prie, aidez-moi. J'ai besoin de votre aide parce que j'arrive plus à dormir. » « Ah oui, qu'est-ce que c'est votre problème ? Asseyez-vous, je vais m'occuper de vous. » « Alors, mon problème, docteur, c'est ça. Quand je suis dans mon lit, il faut absolument que je regarde sous le lit parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dessous. » Et quand je suis dessous le lit, quand je suis en train de regarder, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dessus. Alors docteur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Alors, le docteur, il dit, bon, on va établir un programme, alors d'après mes bouquins de psychiatrie, alors vous allez faire une cure avec moi pendant un an, vous allez venir 3 fois par jour. Ah, trois fois par jour, d'accord. Et le prix de la consultation, c'est combien? Oh, c'est juste 99 euros. Ah, d'accord. Ça fait réfléchir quand même. Trois fois par semaine, 52 semaines dans une année. Je vous laisse le soin de calculer. Ça fait une sacrée somme. Je vais réfléchir. Et puis, le temps passe. Jamais le docteur revoit la personne, parce qu'il a réfléchi. Et puis un jour, ça arrive par hasard, il se croise dans la rue, et le docteur, il lui dit, mais je vous reconnais, vous aviez un problème, et vous deviez venir me voir, et prendre un an avec moi pour que je puisse venir à votre aide. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, j'ai trouvé un ami qui m'a donné un très bon conseil, et ça m'a coûté 0 euro. Ah oui, et c'est quoi ce conseil? Eh bien, simplement d'enlever les pieds du lit. Et c'était fini. Et souvent, on se casse la tête à essayer de trouver des moyens humains, à essayer de trouver des personnes autour de nous qui vont nous donner des solutions humaines, alors que la Bible nous dit que Dieu, Jésus surtout, est cet ami qui a prouvé qu'il avait intérêt à nous faire du bien, qu'il avait le désir de nous faire du bien surtout. Il a prouvé parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Il a donné sa vie pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions être ramenés à Dieu. Il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce qu'il a fait. Et tous ceux qui croient en lui deviennent ses amis. Tous ceux qui font sa volonté deviennent ses amis. Et quel plus grand conseil pourrait donner un homme si ce n'est ceux de la parole de Dieu, ce que Dieu a laissé, ce que Jésus a laissé aussi au travers des évangiles. Quel plus grand conseil pourrait sauver un homme, pourrait lui donner la vie? Alors comment réagir? Comment allons-nous réagir à cette réalité que Dieu contrôle toutes choses? Que Dieu est aux commandes? Que Dieu permet les circonstances, permet des fois les circonstances difficiles, permet aussi les circonstances faciles, mais tout cela pour travailler nos cœurs. Dieu permet aussi des moments où notre cœur est averti. Comment allons-nous réagir à ces avertissements? Est-ce que nous allons rester dans la peur, dans la confusion, dans la panique? Ou est-ce que nous allons choisir d'avoir confiance en Dieu, de croire que c'est la vérité que Dieu nous dit et que c'est parce qu'il nous aime qu'il nous avertit, qu'il nous reprend, que nous puissions laisser cette parole faire son œuvre en nous. Troisième personne qui intervient à la fête, Daniel. Daniel, sa participation, ça a été laquelle? Au verset 13, on le voit. Il a pris la parole et il ne s'est pas laissé démonter parce qu'il avait le roi en face de lui. Il ne s'est pas laissé éblouir par la richesse ou par l'autorité qu'il avait, mais il lui a dit la vérité. Et je crois que peu d'entre nous auraient osé dire ce que Daniel a pu dire. Parce que Daniel, il n'est pas passé par quatre chemins. Il n'a pas mis trop de gants. Il en a mis un peu quand même, mais il n'a pas mis trop. Il a dit quand même la vérité sans détour. Il a dit ce que le roi avait besoin d'entendre. Il aurait pu se laisser avoir par les richesses. D'ailleurs, le roi il disait, mais si tu interprètes, si tu dis bien les choses, je te donnerai toutes ces choses. Il a dit, non, 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 garde tes dents pour un autre. Et pourtant, il les a reçues à la fin quand même. Mais il n'a pas fait cela dans le désir de gagner quoi que ce soit. Il a fait simplement pour obéir à Dieu, pour que le roi réalise complètement la portée de ce qui était dit, l'avertissement qui était donné. Et il a déchiffré cette inscription, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Vous avez tous compris, hein? Comptez, comptez, pesez, divisez. C'est ce qu'il a dit. Et Daniel, il avait compris quelque chose. Il avait compris cette chose tellement importante que nous allons lire dans Proverbe chapitre 21 et le verset 2. Proverbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Daniel a compris que c'est Dieu qui pèse les cœurs. Dieu qui connaît le cœur de l'homme, c'est lui qui est bien placé pour savoir peser les cœurs, savoir qui est léger, qui a du contenu, qui est dans sa présence, dans toutes sortes de choses inutiles et vaines, qui est dans sa présence intéressé par ce qui est important, par les choses prioritaires. Dieu connaît le cœur de l'homme, les pensées de l'homme, et il est capable de sonder tout cela. Compter, compter, peser, diviser. Il y avait cette petite fille, un jour, qui a écouté un message et qui est revenue. Et on voyait qu'elle était travaillée dans son cœur. Il y avait sa maman qui la voyait et voyait que sa fille était dans ses pensées. Et puis la petite fille, elle va voir sa maman, elle lui dit, mais maman, ce qu'a dit le pasteur, ça m'a fait quelque chose. Et la maman, elle était contente. Elle dit, ah oui, alors qu'est-ce que tu as retenu? Alors si j'ai bien compris, le pasteur, il a dit que Dieu était très, très grand, plus grand que nous. Oui, oui, tout à fait, c'est ce qu'il a dit, effectivement. Et puis le pasteur, il a dit aussi que Dieu, il habitait au-dedans de nous. Il voulait habiter en nous. Ah oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Dieu veut habiter, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ce que l'a dit le pasteur. Alors je ne comprends pas. Pourquoi, si Dieu il est plus grand et si Dieu il est dedans, pourquoi il déborde pas? Et combien de fois on laisse pas Dieu déborder en nous, alors qu'il est plus grand que nous, et alors qu'il devrait nous remplir, et il devrait déborder? Et cette petite fille, elle avait noté ça. Je ne sais pas, peut-être qu'elle ne parlait pas de sa maman, elle parlait de quelqu'un d'autre. En tout cas, elle avait compris que quand on est rempli de Dieu, c'est obligé que ça déborde. Et Daniel, il était rempli de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de sagesse, d'intelligence. Et quand il y a eu un problème dans le royaume, c'est lui qu'on est venu chercher. Non pas qu'il avait des mérites particuliers ou des qualités incroyables. Si, il avait peut-être cette qualité de connaître Dieu et d'être sérieux et fidèle. Et c'est parce qu'il avait ces qualités qu'on est allé le chercher, comme le Seigneur nous appelle à nous, à être remplis de lui, à déborder de sa présence. Comment être trouvé léger? De quelle manière, ce soir, on peut répondre à cette question? Est-ce que je suis léger dans la balance de Dieu ou est-ce que je suis lourd dans le bon sens? Est-ce qu'il y a du contenu? Ben, tout cela est dit, on l'a lu tout à l'heure dans ce proverbe. Les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Si on fait selon nos voies, si on agit selon nos pensées, si on suit les voies que nous pensons qui sont bien, eh bien on va être trouvé léger de manière obligatoire. Parce que la pensée de Dieu, elle est bien plus grande, elle est au-delà de notre intelligence, au-delà de notre sagesse, et Dieu sait pertinemment ce qu'il faut, mais l'homme n'est pas capable par lui-même de s'en sortir. Deuxième chose, quand on lit au verset 20, Daniel, il utilise l'exemple du roi Nebuchadnezzar qui a vécu une expérience particulière. Il a vécu cette expérience où, à un moment donné, il croyait que toutes les richesses, tout ce qu'il avait, il croyait que c'était grâce à sa force, à lui. Il croyait que c'est lui qui méritait tout cela. Et il a été abaissé pour un temps. Pourquoi? Parce que son cœur, il s'est élevé. L'orgueil nous amène à être trouvé léger. Son esprit s'est endurci jusqu'à l'arrogance. Et quand nous endurcissons notre cœur et que nous sommes arrogants des choses que nous possédons, mais nous sommes trouvés légers. C'est des choses qui sont marquées, mais c'est tellement simple. Si nous sommes dans ce cas, eh bien, Dieu va nous, en nous pesant notre cœur, parce qu'il est celui qui pèse les cœurs, il va nous trouver légers. Mais comment alors être trouvé, ne pas être trouvé léger justement? Comment être rempli de foi, d'amour, de patience, toutes ces choses qui ont du poids, de la valeur aux yeux de Dieu? Eh bien, il suffit justement d'avoir la foi. La foi en Jésus, la foi en cet homme qui a donné sa vie pour le salut de beaucoup d'hommes, pour le salut de tous ceux qui croiraient en lui. Il suffit aussi d'humilier son cœur. Au verset 22, Daniel reproche à Belshazzar cette chose, « Tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu connaissais cette histoire. » Moi je crois, j'ai même cette certitude profonde que Belshazzar il avait une chance de s'en sortir. C'était encore un moment, la seconde, qui allait déterminer la suite de l'histoire. Malheureusement, on voit qu'il n'a pas fait le bon choix, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais je crois qu'à ce moment précis, il a choisi quelque chose qui a déterminé le cours de sa vie. Comme il peut y avoir des décisions, la décision qu'on fait ce soir, des décisions importantes, des décisions qui ont une portée spirituelle, qui peuvent changer le cours de notre vie. Savoir si on va avoir l'approbation de Dieu ou si on ne va pas écouter l'avertissement de Dieu et passer au travers et aller jusqu'à la suite, c'est-à-dire la condamnation. Le roi Belshazzar ne s'est pas senti coupable plus que ça. Et quand il a entendu tout ce que Daniel disait, il n'a pas changé quoi que ce soit à son comportement. Il a dit, bon, mais j'avais promis telle chose, telle richesse, je te les donne. Mais il ne s'est pas repenti. Il n'a pas humilié son cœur. Il n'a pas demandé pardon, il ne s'est pas senti coupable. Et le résultat, c'est qu'il y a une quatrième personne qui s'est invitée à la fête, quelqu'un qu'on n'attendait pas du tout, encore moins que les deux autres d'avant, encore moins que Dieu, encore moins que Daniel, c'était Darius. Darius s'est invité à la fête, c'était sa contribution, ça a été quoi? La condamnation. Comme celui qui va refuser l'avertissement de Dieu, de remettre sa vie en règle, va être un jour condamné. Celui qui va refuser l'invitation d'aller à ce repas que Dieu désire avoir avec ses enfants, avec tous ceux qu'il aime, il va être condamné. La condamnation, comme on le voyait la semaine dernière, c'est la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. C'est quelque chose qui a une conséquence. Et je crois que quand le roi a organisé son festin, il ne pensait pas que c'était son dernier jour à vivre. Je ne crois pas que c'est dans cette optique qu'il faisait le festin. Je crois qu'il pensait justement qu'il allait pouvoir en refaire d'autres et d'autres, montrer sa richesse. Mais cette même nuit, son âme lui a été redemandée. Et je ne voudrais pas être quelqu'un qui est un oiseau de mauvais augure qui annonce des mauvaises choses, mais il y a cette réalité qui est là, qu'on n'est pas maître de notre vie. Notre vie peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Nous avons besoin d'être en règle avec le Seigneur. Nous avons besoin de savoir que nous ne sommes plus sous la condamnation, mais que nous sommes sous le pardon, sous la justice de Dieu, parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Alors, ce soir, que ferons-nous ? Que ferons-nous face à cette parole ? Est-ce que nous allons fermer les yeux sur notre péché, regarder à ces choses terrestres et ne pas se rendre compte de la situation dans laquelle nous sommes, de ce danger de mort, de cette condamnation sous laquelle on est? Ou est-ce que nous allons venir au Seigneur et lui dire: Seigneur, je veux avoir confiance en toi, je veux répondre à tes avertissements, je veux répondre à ta parole. Oui, ça m'a tristé, oui, ça m'a fait mal. Comme je lisais un jour un verset à quelqu'un, et cette personne, en lisant ce verset, elle a dit cette chose: cette parole me fait mal. Et je lui ai dit: mais oui, la parole de Dieu, des fois, ça nous fait mal parce que ça remet les choses en place. Comme quelqu'un qui s'est déboîté l'épaule. Si on le laisse comme ça parce qu'il ne veut plus avoir mal, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va être quelqu'un de... Enfin, pas défiguré, mais vous avez compris. Quelqu'un qui va avoir un problème à l'épaule, son bras, il ne va plus pouvoir s'en servir de manière normale. Par contre, si le docteur ou la personne qui s'y connaît vient et remet le bras en place tout de suite, à chaud, eh bien, il va y avoir la guérison qui va être possible. Des fois, on a besoin que ça fasse mal pour que Dieu puisse remettre les choses en place, pour que nous puissions à nouveau être dans l'approbation de Dieu. Alors ce soir, ne faisons pas comme ce roi. L'exemple, il a été donné pour notre instruction, encore une fois. Ne faisons pas comme ce roi qui n'a pas tenu compte de l'avertissement, qui n'a pas humilié son cœur. Le Seigneur ne nous demande pas des grandes choses. Il ne nous demande pas de la grande richesse, des grands talents, des belles prières bien construites. Il nous demande d'humilier notre cœur et de croire que Jésus a payé toutes choses sur la croix pour notre salut. Que son nom soit béni. Oui, Seigneur, merci pour ces moments. Nous avons, Seigneur, tellement besoin de ta parole, tellement besoin, Seigneur, d'écouter le conseil que tu as pour nous. Merci de nous avoir laissé cette parole. Merci, Seigneur, de nous avoir permis d'arriver à la connaissance de la vérité, Seigneur. Merci parce que tu nous avertis, comme un père avertit son enfant du danger. Seigneur, nous ne voulons pas rester insensibles, mais ce soir, s'il y a quelque chose en nous qui nous sépare de toi, Seigneur, nous voulons te le présenter. Nous voulons simplement humilier nos cœurs devant toi. Oui, notre désir, c'est non pas d'avoir des excès sur cette terre, de regarder aux choses qui brillent sur cette terre. Notre désir, c'est de vivre un jour ce repas des noces de l'agneau dans ton ciel de gloire, dans la communion avec toi. Notre désir, c'est d'être un jour avec toi, Seigneur, en pouvant te regarder face à face. Merci parce que tu es cet ami qui a donné sa vie. Tu nous as prouvé ton amour envers nous, en ce que tu as donné ta vie alors que nous étions encore des pécheurs. Oui, Seigneur, merci pour cela. Ce soir, nous voulons laisser ta parole faire son œuvre en nous. Nous croyons que cette parole est vivante et efficace. Nous croyons, Seigneur, qu'elle est agissante, qu'elle est active en nous, Seigneur, et nous voulons lui laisser toute la place. Alors, Seigneur, permets que quelqu'un ce soir ne puisse pas repartir de ce lieu sous la condamnation, mais qu'au contraire, il puisse repartir sous la liberté, sous la justice que toi, tu vas lui apporter en venant dans son cœur. Seigneur, je te bénis et je te loue parce que tu es ce Dieu qui prend soin de ses enfants. Tu nous donnes des conseils pour notre bien. Alors, Seigneur, je veux te bénir encore dans cette soirée. Amen.